Le CETIM remercie les organisateurs, les organisations qui soutiennent cette soirée, à savoir donc la ville de Genève via la Fédération genevoise de coopération, mais également des organisations comme Solidar et Action de Carême, et puis des syndicats comme le CIT, UNIA, le SSP, UNIA Suisse et UNIA Genève. Et puis on remercie également le mouvement de la société civile colombienne On y va, qui nous a aidé à organiser ce symposium. Je voulais aussi remercier chaleureusement, et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, tous les interprètes qui vont pendant ces 3 jours exercer leur talent pour mieux vous servir. Donc je cite Simon Prix, Myrias, Iris Borian, Matt Jenkins, Patricia Blackett, Adela Baena, Nouria Mestre, Irsia Pertusa, Corinne Bou, Maxime Ferréol, Adèle Tobin et Joe Burbidge. Donc merci beaucoup à eux. Je vous encourage à les applaudir chaleureusement. Ils vont faire un énorme boulot bénévole pendant ces 3 jours. C'est... Voilà. Juste quelques mots avant de passer la parole à nos invités pour qu'on cadre l'organisation de ce symposium par le CETIM. En fait, Sandrine a dit énormément de choses justes. Effectivement, le libre-échange, les investissements étrangers, la croissance économique sont depuis les années 80 le seul mot d'ordre qui ne cesse de tourner en rond dans les médias, etc., comme étant les seules voies de développement et de croissance économique pour tous les pays. Et donc, ces promoteurs encouragent l'ouverture des frontières de tous les pays aux capitaux étrangers, des pays donc en voie de développement et des pays développés. Or, on oublie souvent que elles-mêmes, les grandes puissances, se sont développées en protégeant leurs industries naissantes. Les conséquences de l'impact des politiques néolibérales sur les pays en voie de développement ont été très bien cernées par de nombreuses ONG et mouvements sociaux depuis une vingtaine d'années. Et puis, on le voit parce que les négociations, par exemple, au sein de l'Organisation mondiale du commerce ou avant du GATT, ont mobilisé des millions de personnes et ont mis des millions de personnes dans la rue. Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, en 98, à Seattle, une des négociations de l'OMC, une des réunions de l'OMC, a été comme un acte fondateur de la naissance du mouvement altermondialiste. Depuis quelques années, on assiste donc à, comme disait Sandrine, un blocage de ces négociations au sein de l'OMC. Et donc, en parallèle, les pays du Nord ont développé une nouvelle stratégie visant à signer un maximum de traités bilatéraux de libre-échange. Et comme Sandrine le disait, il y en a plus de 3000 aujourd'hui. Le problème, c'est que très souvent, les textes de ces traités sont indisponibles ou quasi secrets. Et même que les négociations, et par exemple, j'ai vu récemment dans un article qui traite de l'accord sur le traité transpacifique qui est à venir, le TPP, il est signalé que la teneur des textes et des négociations ne sera révélée que 5 ans après que les négociations soient terminées. Donc c'est pour vous montrer le débat démocratique dans lequel on nage en ce moment. Donc c'est vrai que toutes ces traités de libre-échange suscitent beaucoup moins de protestations qu'on a eu l'habitude de voir lorsque l'OMC se réunissait, etc. Donc c'est une première contradiction qu'on voulait soulever. Et c'était la volonté du CETIM d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ces traités. Mais d'ailleurs, on sait que ça concerne énormément d'ONG, vu le nombre de soutiens d'organisation à ce symposium. Et on sait que, bon, par exemple, comme la déclaration de Berne partage également ce même souci. Pour certaines ONG ou pour certaines organisations, il faut effectivement se mobiliser contre les traités de libre-échange avec des pays qui sont peu respectueux des droits humains. Ça, on comprend très très bien les raisons. Et puis, certaines organisations prônent donc l'introduction, comme le disait Sandrine, de clauses sociales. Nous, on comprend tout à fait ces raisons, mais on voulait se demander quelle était la pertinence et l'efficacité de ces clauses et quels étaient les modes de vérification. Donc ça sera un peu en débat pendant ces 3 jours. Hein. Et le CETIM voulait apporter une autre grille d'analyse, à savoir celle qui est son fondement, celle qui fait partie de son slogan, hein. À savoir donc celle du mal-développement. Car le mal-développement se nourrit de l'échange inégal et de la spécialisation économique des pays. Donc, dans ce symposium, on aimerait analyser tous les traités de libre-échange à travers cette grille d'analyse. Mais je parle des traités de libre-échange qui sont signés entre un pays, entre deux pays inégalement développés, évidemment. Donc on aimerait avoir une discussion un peu plus stratégique à ce niveau. Des études le montrent, l'application de ces traités de libre-échange entre des pays inégalement développés engendre des politiques de néolibérales et de privatisation qui sont, je cite, juridiquement irréversibles, comme le démontre Alejandro Teitelbaum dans l'étude qu'on vous a distribuée dans votre dossier, que vous aurez l'occasion de lire. Et ces politiques entraînent, en fin de compte, une désintégration des économies nationales, générant donc de graves dommages sociaux, mais surtout la violation des droits humains environnementaux. Donc ça vient comme en fin de compte. Donc c'est un peu ces questions qu'on aimerait développer dans ce symposium. Se demander donc si en fin de compte la consolidation, ces traités n'aboutissent pas à la consolidation de l'échange inégal, de la spécialisation des pays et donc de la pérennisation du mal développement. Hein, quand je vous répète que le slogan du CETIM est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un monde mal développé ». Et puis, voilà, ce sont un peu ces questions qui vont traverser ce symposium. Une des propriétés du CETIM est d'examiner les luttes et les ressemblances dans les combats menés au sud et au nord. C'est pour ça que nous allons aussi bien examiner les impacts des traités de libre-échange dans les pays du sud, notamment en Colombie, en Inde, mais également dans les pays du nord. Pour cela, donc, nous avons cinq conférences. Je vous répète rapidement, vous avez le programme sous les yeux. La première conférence qui sera assez introductive, qui vous permettra de saisir un contexte général et également de faire un petit focus sur la Suisse. Demain, nous aurons une conférence un peu plus longue l'après-midi avec deux cas d'études, un cas d'étude sur l'agriculture en Inde et puis un autre cas sur la Colombie, et on terminera par l'intervention d'un conseiller national, Carlo Somaruga, qui revient d'un voyage d'étude, bilan entre guillemets, suite à la signature du traité Suisse-Colombie il y a un an. Une troisième conférence demain soir nous permettra de dresser par contre un bilan un peu plus conséquent sur un traité de libre-échange en particulier assez connu qui s'appelle l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui a été signé il y a 18 ans. Et puis samedi matin, on aura une quatrième conférence avec uniquement le point de vue de syndicalistes, un Colombien et un Suisse, sur les traités de libre-échange, donc les impacts encore au nord et au sud. Et enfin, samedi après-midi, on aura une conférence un peu plus ouverte sur les alternatives qui sont prônées aussi bien au nord et au sud avec trois intervenants. Voilà, donc vous avez tous un dossier du participant avec l'étude d'Alejandro Teitelbaum, par exemple, une brochure de la déclaration de Berne qui avait été publiée en 2007 sur les accords de libre-échange signés par la Suisse, qui est fort intéressante, et Alliance Sud, pardon. Et on vous remercie pour nous avoir fourni ces brochures. Et puis, vous avez également deux articles en anglais qui sont très intéressant sur les impacts de l'ALENA au Canada, non seulement. Et vous avez également un document de l'AITEC, qui est une association française, qui vous sera présenté samedi après-midi.